Pour sa deuxième visite à Beyrouth, depuis l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise, Emmanuel Macron était attendu de pied ferme. Dans la foule, un mélange de protestations et de supplications.
Nous rejetons le nouveau gouvernement qui est encore une fois le produit d'une autorité défaillante et criminelle.
Une position délicate pour le chef de l'État qui a promis notamment aux Libanais des réformes qui mettront fin à la corruption.
Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. C'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu.
Pas si simple entre deux pays liés par une histoire commune. Protectrice des chrétiens d'Orient, la France a façonné au fil du temps le pays du Cèdre et ses institutions. En 1920, sous mandat français, le général Gouraud proclame la création de l'État du Grand Liban. Pendant près de 25 ans, le pays est dirigé par des fonctionnaires français. Aujourd'hui, le Liban s'enfonce dans une crise économique et sociale. Pour en sortir, Emmanuel Macron mise sur une nouvelle donne politique. Le système confessionnel de partage du pouvoir pourrait être abandonné.
Le Liban a besoin de changements sur la base d'un État laïque.
De quoi inquiéter les voisins syriens, iraniens et saoudiens, habitués à tirer les ficelles en coulisses dans la région. Le président français assume sa stratégie.
C'est un pari risqué que je fais, j'en suis conscient. Je mets la seule chose que j'ai sur la table, mon capital politique.
Emmanuel Macron va-t-il réussir son pari? A-t-il les moyens de bousculer une classe politique corrompue? Quel risque pour la France en cas d'échec?
Pensez-vous que les responsabilités dans cette tragédie du port de Beyrouth vont être clairement établies? Ziad Majed, c'est assez mal parti puisque le président libanais a exclu une enquête internationale. Est-ce que la justice libanaise peut s'en saisir? Est-ce qu'une personne, un juge, a été saisi de l'instruction de cette enquête?
Il y a un juge qui a été saisi de l'instruction, mais pour le moment, il n'y a aucune transparence. Ouais. On ne connaît pas les résultats du travail qu'il fait. Le président de la République et la classe politique avaient promis qu'en 5 jours, il y aura des informations. Là, on est aux 3e semaine, aucune encore. Ils ont arrêté quand même quelques personnes qui travaillent sur le port de Beyrouth, mais on sait que c'est une question politique. La justice aujourd'hui n'est pas indépendante et le juge.
Il y a des précédents par ailleurs.
Tout à fait. Le juge n'est pas indépendant et il n'y a pas eu dans le passé des dossiers qui ont finalement été clarifiés. L'impunité règne au Liban et cette classe politique corrompue a même réussi à contrôler et la justice et la plupart de l'administration. Et des gens qui travaillent.
Alors on démarre avec un chiffre. Oui. À propos, on revient à cette visite d'Emmanuel Macron au Liban. Un chiffre.
100. Il y a 100 ans, pile le 1er septembre 1920, bien la France proclamait solennellement la naissance du Grand Liban sous son protectorat. Protectorat qui durera jusqu'en 1946, date de l'indépendance du Liban. Alors la question se pose, Raphaël Gourada, est-ce que Emmanuel Macron peut apparaître non pas comme un sauveur, mais comme un recolonisateur du Liban?
Alors ça, moi, je pense que c'est une question qui est un petit peu biaisée. Il y a toujours ce risque d'ingérence qui est un risque réel, forcément, dès lors qu'on s'investit sur un terrain étranger. Le danger, en fait, a été plutôt dans la manière dont il s'est positionné dès sa venue du 6 août, en fait, qui a été motivé d'une part, en fait, par l'urgence humanitaire, ça c'est un fait, mais on le voit sur ces images, en fait, dans la rue, sous avec, la magie de l'instant,
l'euphorie
du moment. C'est quand même, à mon sens, un petit peu avancé lorsqu'il a promis la refondation d'un pacte politique et qu'il allait mettre justement la pression sur le personnel politique libanais. Parce qu'on a toujours, les mots pèsent.
Il a dit aux Libanais dans la rue, c'est à vous de le faire.
Voilà, c'est à vous de le faire. Voilà. Mais la ligne est quand même toujours très très fine. Et effectivement, je pense que, et d'ailleurs Ziad, tu le disais dans une de tes interventions médiatiques, c'est que la ligne en fait est assez fragile. Et en fait, c'est pas la même visite que celle du 6 août. Celle du 6 août était forcément bien vue parce que c'était une visite qui était très forte et je pense à mon avis que c'est une bonne chose que la France se soit investie à ce moment-là
et qu'elle ait soutenu.
Et là hier, c'est un peu un champ de mine.
Il y a eu beaucoup de symboles
évidemment.
Fayrouz.
Absolument. Donc on sent vraiment qu'il y a une volonté un petit peu de donner une dimension. La date n'est pas innocente. Fayrouz, c'est pas innocent. Le cèdre planté, c'est pas innocent non plus. Et du coup, c'est un petit peu, je pense, il a, et même dans ses discours. Hein, il est beaucoup plus mesuré, je trouve, en tout cas pour le moment, que dans sa venue du 6 août pour éviter que, de paraître comme un recolonisateur, si on peut dire.
Myriam Amiral, justement, le président de la République dit que c'est un pari risqué que je fais, hein, ce sont ses mots. Est-ce que la France, du coup, selon lui, a des coups à prendre?
Bien sûr, c'est stratégique aussi. C'est une main tendue au Liban, c'est indéniable. Et c'est aussi une stratégie de la France pour retrouver aussi sa place au Moyen-Orient. Mmh. C'est indéniable. Il y a aussi une conjoncture qui est favorable, conjoncture internationale. Il y a les élections aux États-Unis. On voit qu'aux États-Unis, on a d'autres chats à fouetter que la crise au Liban. Il y a ces manifestations, ces émeutes raciales. Il y a la crise sanitaire, la crise économique qui va en découler, qui va suivre. Il y a donc un champ intéressant pour la France sur le sol libanais. Et il y a aussi, à mon avis, la France est bien placée pour tendre cette main parce que les acteurs régionaux, parce qu'il y a des acteurs régionaux qu'il ne faut pas négliger. Le Liban a souvent souffert des guerres des autres sur son territoire et on ne peut pas oublier que le Liban n'est pas une île déserte et qu'il est entouré de pays où il y a des conflits régulièrement. Et parmi ces rivaux, les rivaux de la France sur le sol libanais, il y aura la Turquie qu'il faudra regarder de très près.
Ziad Majed, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opportunisme diplomatique de la part d'Emmanuel Macron? Parce qu'il y a une sorte de vide politique régionale.
Oui, il y a un opportunisme politique qui est plus ou moins justifié dans le sens où il y a un temps mort américain avec les élections en vue. Il y a les pays du Golfe, les monarchies sunnites qui sont en retrait, notamment l'Arabie saoudite, vu la guerre au Yémen et vu les mauvaises relations entre Mohamed Ben Salman et Saad Hariri, son ancien protégé. Il y a la Turquie qui essaye de jouer un rôle de plus en plus important dans les scènes où il y a une communauté sunnite frustrée à la fois par l'arrogance chiite et l'agressivité iranienne, si on veut parler au nom des sunnites dans ce sens-là. Donc il y a cette volonté française de vouloir s'imposer, mais évidemment il y a un attachement assez exceptionnel, disons, par rapport à Beyrouth. Je voulais juste dire un mot
historique. Et puis la francophonie aussi.
Et la francophonie, oui, et la présence chrétienne, oui. et plein de symboles dans ce pays. Du côté libanais, il y a très peu de gens qui voient cela une injurance, comme une injurance.
C'est bien accueilli par tout le monde, y compris par la jeunesse, qui n'a pas forcément
Non, c'est-à-dire ça va même au-delà de là. Le pays n'a aucune souveraineté. Et il est à la fois contrôlé par des mafias au pouvoir qui l'ont vidé de tout sens de souveraineté. Les Iraniens sont présents directement à travers le Hezbollah, chef d'orchestre de la vie politique. Les Saoudiens étaient présents longtemps à travers les Hariri. Les Turcs essayent de trouver aujourd'hui une présence. Les Américains sont présents. Donc quand la France intervient avec peut-être beaucoup de risques qu'Emmanuel Macron a pris, parce que quand même il est en train de renouer avec la classe politique contre laquelle des centaines de milliers de Libanais se sont
dans la rue depuis octobre,
qui a vidé les caisses de l'État, qui a aucune crédibilité, et elle a trouvé un Premier ministre inconnu pour se cacher derrière. Donc il y a un énorme risque qui peut coûter quand même la crédibilité de son intervention.
Ziad Majed, vous avez évoqué l'Iran. Faites-nous écouter le ministre des Affaires étrangères iranien.
Oui, parce que vous le disiez, l'Iran n'est jamais très loin de la situation. On va écouter ce ministre qu'il dit.
Nous pensons que seul le peuple et le gouvernement libanais doivent décider de leur sort et que d'autres pays ne devraient pas conditionner leur aide à un changement politique au Liban. À notre avis, il n'est pas humain d'exploiter la douleur et la souffrance du peuple libanais à des fins politiques.
Raphaël Gourada, on sait qu'il y a le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Et est-ce qu'il y aurait une forme de faiblesse actuellement du Hezbollah qui peut aussi encourager l'intervention d'Emmanuel Macron?
Alors je pense que forcément, là c'est là. Depuis octobre dernier, je pense que je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir ni dans le politburo du Hezbollah, mais je pense quand même que le parti a eu un peu peur quand même. Parce que c'est la première fois où...
Rappelons que c'est un parti et une milice armée, voilà, avec 80 absolument. 000 hommes à peu près, hein, financés par l'Iran.
Et donc du coup, je pense que le parti a eu assez peur, parce que pour la première fois, il a été non seulement visé par les manifestations vraiment explicitement, deuxièmement, il y a eu son secrétaire général, qui est quand même une figure assez presque intouchable en fait dans certains milieux chiites, qui a été dénoncé. Troisièmement, surtout, des manifestations se sont vues dans des territoires qui sont censés être contrôlés par le Hezbollah. Donc je pense qu'effectivement, le Hezbollah a peur. C'est comme ça, en tout cas, que moi, à titre personnel, je lis les déclarations et un peu la main tendue, le semblant de main tendue par Hassan Nasrallah vis-à-vis de la France. Et parce que
le leader du Hezbollah.
Voilà, le leader du Hezbollah, absolument. Parce que je pense qu'il y a une crainte aussi un petit peu d'être side-backé par cette d'être mis de côté, en tout cas, de plus être au centre du jeu politique, pardon pour cet anglicisme, par justement la diplomatie française. Ouais, absolument.
Myriam Amelal, est-ce qu'il faut aller jusqu'à déclarer le Hezbollah comme organisation terroriste, comme le souhaitent plusieurs signataires aujourd'hui dans le Figaro, Manuel Valls, Roger Karoutchi, Pascal Bruckner?
Je pense que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas nier que le Hezbollah joue un rôle sur le territoire libanais. C'est compliqué d'exclure le Hezbollah en tant que force politique, et en même temps, le Hezbollah, vous l'avez dit, c'est aussi une milice financée par l'Iran, donc c'est une question très compliquée. Exclure le Hezbollah des discussions politiques, c'est aller vers l'échec aussi de ces négociations et de cette tentative de casser justement ce système clanique, confessionnel.
C'est un interlocuteur incontournable.
C'est un interlocuteur incontournable. Il faut être concret aussi, et la réalité du terrain est là, et c'est compliqué.
Risqué aussi, je pense.
Et c'est risqué, en effet.
Risqué au sens physique.
Oui. Je pense que justement, c'est là le centre de la diplomatie, en tout cas française, menée par Emmanuel Macron depuis le début de cette crise, et puis même depuis plusieurs années, à mon sens, c'est de maintenir la place de la France comme arbitre, médiateur, parce qu'on parlait justement du momentum. En fait, il est pas uniquement... Il date de quelques années, déjà depuis la conférence CEDRE, qui a été un petit peu... qui a été menée sous l'égide de la France, et puis aussi avec la crise, la fameuse crise Hariri, quand il a été retenu à Riyad et exfiltré par la diplomatie française.
Et le problème du Hezbollah, c'est-à-dire les Libanais savent aujourd'hui que c'est un vrai dilemme. Il n'y a pas de solution avec le Hezbollah tant que l'Iran maintient sa volonté régionale de s'imposer en tant que presque empire politique. Mmh. Et en même temps, il n'y a pas une solution sans le Hezbollah, qui est à la fois puissant, mais aussi qui a une légitimité populaire au sein de la communauté chiite libanaise, c'est-à-dire au sein d'un tiers de la population.
Ouais. Et mais est-ce qu'il y a un risque de représailles pour nous, quand? Parce que la France est marquée par les attentats. On se rappelle pour la Raqqa, bien sûr. Non,
alors là, c'est l'Iran qui décide. Et je pense que les Iraniens, aujourd'hui, ne sont pas dans une logique par rapport à l'Occident et par rapport à l'Europe de clash et de confrontation, parce qu'ils souhaitent garder des moyens politiquement parlant, de pression sur Washington aussi, à travers les Européens, afin de modifier la politique des sanctions. Et le problème de ceux qui veulent que Hezbollah soit classifié comme organisation terroriste, ne prennent pas en considération ni la situation au Liban, ni la sociologie politique libanaise. Ils sont surtout motivés par des positions pro-israéliennes. Et ça, c'est pour les habitants du sud Liban qui ont été sous l'occupation israélienne pendant 22 ans, est quelque chose d'inadmissible. Donc ça n'aide pas beaucoup, ce genre de déclaration par ces personnalités-là, puisque ça met les Libanais opposés à Hezbollah, pour des raisons libano-libanaises et régionales, dans une situation qui n'est pas tout à fait correcte, parce qu'Israël est une menace aussi au sud-Liban et au Liban en général.
On évoque la diplomatie du blé.
Oui.
Avec vous, Nadia.
Une diplomatie du blé qui sera en train de se jouer.
Grain de blé.
La céréale, effectivement, puisque dès les premiers jours après la catastrophe, la France a envoyé des quantités massives de blé et de farine au Liban, pour une raison très simple, c'est que le grenier à céréales du pays a littéralement disparu. Le grand silo qui se situe sur le port de Beyrouth, qui pouvait contenir 120 000 tonnes de blé, a été entièrement soufflé. On a vu d'ailleurs Emmanuel Macron, lors de sa première visite, ramasser des grains de maïs qui étaient dispersés sur le port. Le contenu, ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu de ce silo, ça représentait un dixième de la consommation annuelle du Liban. L'ONU a très vite dit craindre que la population soit privée d'une alimentation de base. Et donc, on a vu des meuniers français se mobiliser massivement. 25 000 tonnes de blé vont être acheminées dans les prochaines semaines. Mais alors, tout ça, ça n'est pas qu'un élan humanitaire. Il y a aussi des enjeux économiques et diplomatiques qui font intervenir un acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est la Russie. Puisque jusqu'ici, en tout cas, c'est la Russie qui couvre plus de la moitié des besoins en blé du pays. C'est une dépendance qui a rapproché les deux pays, les deux États ces dernières années. Certains sont même allés jusqu'à parler d'une histoire d'amour naissante entre la Russie et le Liban, qui s'est manifestée l'an dernier, une partie de l'année 2019, par la visite de Michel Aoun à Moscou. Il a rencontré Vladimir Poutine, il a rencontré des acteurs économiques, une délégation de l'Église orthodoxe, et Poutine, lui, a invité le Liban à participer au processus d'Astana, donc sur la résolution de la crise syrienne. Ziad Majed, est-ce qu'il y a une tentation? Y a-t-il eu une tentation russe de la part du Liban? Et est-ce que la France a ça en tête?
Je ne sais pas si la France a ça en tête. Il se peut que ce soit une des considérations, comme la considération turque, comme d'autres considérations. Mais c'est vrai qu'il y a eu un jeu de séduction de la part de la Russie. D'ailleurs, la Russie, c'est un des acteurs qui parle avec tout le monde, avec un parti et son ennemi. Et par rapport à l'Église orthodoxe au Liban, d'un côté...